L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 15 juillet 1997. Il est 8h45. Depuis quelques secondes, Gianni Versace, le Michel-Ange de la mode italienne, le Léonard de Vinci de la haute couture, agonise sur les marches en marbre de son perron. 8h45, c'est l'heure H de mon récit. Abattu de 2 balles dans le dos, le génial créateur n'a rien vu venir. Son assassin, lui, est déjà pied au plancher. Il fait crisser ses pneus sur le bitume brûlant de l'été et s'enfuit vers une cavale des plus folles. La mode, elle, perd ce jour-là une icône. Une heure et demie plus tôt, programmé comme un réveil, Gianni s'est réveillé avec le lever de soleil de Miami Beach. À ses côtés, son compagnon depuis 1982, Antonio, dort encore. La veille au soir a eu lieu une white party. Tous les invités étaient habillés en blanc, donc, et les deux hommes sont rentrés tard. Mais réglé comme une pendule, Versace s'est réveillé tôt ce matin-là. La petite rénovation de son palace est terminée depuis peu et a coûté la bagatelle de 32 millions de dollars. Une somme qui ne l'a jamais effrayé, tant il aime cette maison. La Casa Casuarina et ses 5800 m² dominent avec beaucoup de prestance et de fierté sur Miami et ses beaux quartiers. Dès le lever, il se sent barbouillé, décide de prendre une douche en vitesse pour effacer les excès de la veille. Puis, direction le dressing où il enfile une tenue légère. Sportwear, certes, mais jamais négligé. Ce matin, c'est petit short, Marcel Blanc, paire d'Adidas. Alors son short est bien entendu une de ses créations. Une fois prêt, il quitte ses appartements privés et déboule dans l'entrée du palace. Des mosaïques importées de Murano, Venise et Florence défilent devant ses yeux fatigués. Il saisit sur un petit guéridon Louis XV une paire de lunettes de soleil qu'il a laissées à cet endroit la veille. À cette heure-là, le soleil levant se reflète sur les fils d'or entrelacés qui parcourent les murs. Son personnel n'a pas encore pris son service. Comme chaque jour, le créateur lève les yeux vers le ciel au travers de son immense verrière et il est capable de donner l'heure simplement en observant la luminosité. 7h45, c'est l'heure d'aller chez Mario. Il jette un dernier regard derrière lui et traverse ce couloir qui mène aux quelques 8 chambres, 10 salles de bain, 2 cuisines, 3 salons. À sa droite, la climatisation centrale qu'il a fait installer montre un signe de défaillance. Et pourtant, ça fait déjà une semaine que les techniciens doivent venir. Il s'éloigne et sort. Maugréant dans sa barbe de 3 jours, l'homme de 50 ans claque la porte derrière lui et descend les marches de son perron. Du marbre blanc, bien entendu. Il longe maintenant son immense jardin dont l'élément central est cette magnifique piscine. L'eau translucide joue aussi avec la lumière de cette belle matinée d'été qui s'annonce. Auparavant, ce paradis de verdure était un hôtel classé monument historique. Cela n'a pas arrêté Versace. Il n'a pas hésité à le racheter pour le démolir malgré les injonctions. Voilà qui il était, l'incarnation même de la détermination et de la volonté. Une opération à 5 millions de dollars tout de même, sans compter l'aménagement des extérieurs qui a suivi. Les commerces dans la rue viennent d'ouvrir. En longeant d'un pas vif Ocean Drive, le créateur perçoit les bruissements de la ville qui s'éveille. Dans une boutique d'accessoires de la plage, on passe un titre de Pino Donaggio. Oh, Gianni les connaît bien, les vendeurs. Il leur fait un signe de la main et continue son chemin dans les rues de Miami Beach. Au bout de la rue, la voix pas bien agréable d'un chanteur de salle de bain passe par la fenêtre d'un appartement du premier étage d'un immeuble. Cela ressemble à du Elton John. Oui, c'est ça. Et ça lui fait penser qu'il doit rappeler le chanteur anglais à qui il a promis une tenue de scène. C'est son meilleur ami depuis déjà des années. Alors promis, il le fera après son appel téléphonique hebdomadaire à Lady Di, à qui il doit raconter des potins sur George Michael. Le soleil commence déjà à chauffer son crâne presque chauve. Au bout de la rue, enfin, apparaît comme un mirage la boutique de Mario. Il achète au vieil émigré italien La Presse Quotidienne, une collection de magazines de mode, et repart un peu plus loin prendre son petit déjeuner. Comme tous les matins, selon une routine bien établie, il mange un croissant et prend un cappuccino avec un supplément crème. Il parcourt les magazines qu'il vient d'acheter. Il trouve un article sur Versace, dans Vogue, et siffle de contentement. Sa marque pèse aujourd'hui plus d'un milliard de dollars, la consécration d'une folle aventure. Des passants le reconnaissent et le saluent. Il signe même un autographe à une petite fille timide qui tient la main de sa maman. Puis, regardant machinalement sa montre, repart en direction de chez lui. Il est 8h30. Mario est déjà transpirant quand il repasse dans le sens inverse devant le kiosque à journaux et Versace ne manque pas de se moquer gentiment de lui. Bon public, le vendeur lui répond d'un sourire radieux, très, très italien. Et pour rentrer chez lui, il prend ce matin-là une route légèrement différente, une petite envie de nouveauté. De retour dans sa rue, après ce léger détour, il cherche dans la poche de son short les clés du portail qui lui permettent d'accéder au perron, puis à la porte d'entrée. Il regarde machinalement sa montre. 8h42. Son compagnon doit encore dormir à cette heure-là. Il ouvre donc lui-même le portail. Il s'y flotte, pense à sa journée à venir et à la soirée en amoureux qui s'annonce. Il veut fêter la toute nouvelle valorisation de l'entreprise. Il est maintenant devant le petit portail en fer forgé. Il attrape son jeu de clés et, maladroit, le fait tomber par terre. Sa montre affiche 8h45 lorsqu'il se penche pour ramasser l'objet tombé au sol devant les marches en marbre. Il ouvre ensuite la serrure, met le pied gauche sur le perron extérieur et se retourne instinctivement, sentant comme une présence derrière lui. Tout va ensuite très vite. Gianni Versace fait face à un jeune homme qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Il a juste le temps de penser qu'il n'est pas très bien habillé, de lui donner une petite trentaine d'années. En face de lui, le grand jeune homme ne lui laisse pas le temps de parler. Derrière ses épaisses lunettes, un regard froid et déterminé qui sait parfaitement ce qu'il est venu faire sur Ocean Drive ce matin-là. De sa poche arrière, il sort un pistolet calibre 40. Pose le canon froid sur la joue du couturier et appuie sans hésitation sur la détente. Une deuxième balle vient ensuite traverser le cou du créateur qui s'effondre sur les marches déjà ensanglantées. De son côté, le meurtrier, qui semblait jusqu'alors hagard, repart en vitesse vers sa voiture et démarre en trombe. Il se dirige vers l'autoroute afin de sortir de Miami. Antonio, le compagnon de la victime, est réveillé par les coups de feu. Effondré, il appelle les secours aussitôt. Mais les urgences dépêchées sur place ne peuvent plus rien faire. Transporté au Jackson Memorial Hospital, il est déjà mort quand on le place dans l'ambulance. Quelques instants auparavant, Antonio a vu le visage de celui qui vient de tirer sur sa moitié. Et ivre de rage, a lancé à la poursuite du tueur un ami qui était chez eux. Ce dernier, bon sportif, l'a rattrapé, mais lui n'avait pas d'arme. Le criminel a caché son visage et pointé son pistolet en direction du brave homme qui a immédiatement arrêté sa poursuite. Mais l'important n'est pas là. Il est maintenant capable d'en donner une description sommaire. Tout comme une femme qui a tout vu et qui était à moins de 10 mètres au moment du meurtre. La mode, désormais orpheline, ignore tout de celui qui vient de tuer l'icône italienne. Les policiers, eux, sont déjà en train de faire des prélèvements ADN qui, ils l'espèrent, permettront de retrouver ce tueur au sang-froid. Casquette rouge, t-shirt gris, bermuda en jean et paire de baskets bon marché. Voilà la tenue de l'homme qui se tire à toute vitesse d'Ocean Drive ce matin-là. Il s'appelle Andrew Cunanan. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Si on le croisait dans la rue, il sait très bien ce qu'il vient de faire. La perspective d'atteindre à la vie du créateur de la marque Versace ne l'a jamais effrayé. C'est sans une once de remords et sans un seul instant d'hésitation qu'il quitte la scène de crime. Mais là, maintenant, c'est la panique. Il doit fuir à tout prix, ne pas se faire attraper par les forces de l'ordre. Gianni Versace est un VIP. Il a atteint sa cible, certes. Mais les moyens vont être déployés pour retrouver son meurtrier. Et ils seront conséquents. C'est lui le fugitif. Alors, il met le pied au plancher. Le moteur du pick-up Chevrolet rugit et cahote. Il ne maîtrise pas encore totalement le maniement de cette grosse bagnole peu confortable. Conduire cet engin pourrait le faire repérer, il le sait. Il met la radio afin d'entendre les nouvelles. Rien encore. Rien pour le moment. Si ce n'est California Love de Tupac. Deux options se présentent à ce jeune homme de 27 ans à peine. Continuer une cavale sur des centaines de kilomètres, il pourrait s'échapper et remonter vers le Midwest ou les États du Sud, où il gagnerait certainement en tranquillité. L'autre option, c'est celle de rester à Miami Beach, au cœur des événements qui viennent de se produire, pour profiter de la notoriété qui sera la sienne quand les autorités feront le lien avec lui. En manque cruel de reconnaissance depuis déjà des années, il opte pour la deuxième option. Discrètement, il bifurque, retourne sur ses pas, abandonne le rutilant véhicule. Il prend avec lui son sac à dos qui contient l'arme du crime. Il est à Miami Beach depuis 2 mois environ. Il commence à connaître son environnement. Il n'est encore qu'à quelques pâtés de maison seulement de l'habitation de Versace. South Beach s'étend devant lui et il cherche une planque efficace. C'est là qu'il aperçoit soudain une péniche qui lui semble peu fréquentée, amarrée à un quai non loin de là. Les embruns qui fouettent son visage lui donnent une impression de toute puissance. Discrètement, il prend le temps de s'arrêter le long de la berge et de prendre quelques grandes respirations. Puis, ni une ni deux, il saute dans cette péniche. Elle ressemble d'ailleurs plus à une vraie maison flottante. Il se rend au premier étage, force la porte d'une des chambres et se barricade à l'intérieur. Fenêtre fermée. Dans l'obscurité, malgré le soleil dans le ciel et les oiseaux qui chantent, ce sont pour lui 8 jours de cavale qui commencent. Dans son sac à dos, il a des réserves histoire de tenir quelques jours, couché sur le truc miteux qui sert de matelas au lit de sa planque. Il replonge dans ses souvenirs d'enfance pour se rassurer. Andrew Cunanan est né à la fin de l'année 1969 en Californie, bien loin de là. Quasiment 3000 kilomètres le séparent maintenant de sa ville natale, National City, une bourgade pas très agréable de 50 000 habitants. Une poussière face aux grandes villes du pays, mais c'est là qu'il est né, le 31 août de l'année érotique. Il a rapidement détesté cette ville, sans attrait particulier ni possibilité d'évolution telle qu'il l'aurait espéré. Lui, il rêvait de grosses bagnoles, de belles villas, de la célébrité. Mais comment imaginer ça à National City? Eh bien, c'était tout bonnement impossible. Malgré une enfance heureuse, entourée par des parents aimants qui ont eu 3 enfants, il lui fallait sortir du trou. Son identité sexuelle, elle, s'était construite une fois l'adolescence venue. Il se savait attiré par les hommes, mais avait peiné à s'assumer pleinement avant ses premières années de jeune adulte. Là, il avait commencé à fréquenter des bars gays autour de National City. Grâce à des amis, sa personnalité, enfin, s'était construite à son image. Diplômé d'une école de La Jolla, un quartier de la ville de San Diego, il avait choisi une citation presque prémonitoire pour accompagner son portrait dans son yearbook. Celle de Louis XV, « Après moi le déluge ». Et il ne croyait pas si bien dire. Le premier traumatisme de sa jeune existence ne tarda pas à arriver. Tout juste sorti de l'école, son diplôme en poche, il apprend par sa mère que son père a fui vers Manille avec toutes les économies du foyer. L'homme, courtier en bourse, se retrouve empêtré dans une affaire de détournement de fonds et décide donc de s'enfuir. Naît alors chez Andrew une haine viscérale des figures masculines, et plus particulièrement paternelles, qu'il ne quittera plus. Il enchaîne les petits boulots du côté de San Diego, comme celui d'employé dans un drugstore. Sa réputation est celle d'un vendeur serviable et aimable. En parallèle, alors qu'il aspire à beaucoup mieux, il accepte de devenir de temps à autre le gigolo d'un notable de ce coin de Californie, et il se rend compte que cette activité le rapproche de ses aspirations. Celle de devenir célèbre et riche. Mais cette réalité cache une face plus sombre du personnage d'Andrew. Celle d'un homme qui deal des médicaments pour se faire un peu d'argent. Consommateur de crack lui-même, il est un mythomane invétéré qui invente une situation financière et sociale pour ses proches. Paris, Hawaï, Venise, Berlin, Florence. À l'écouter, il a été partout. Connaît des célébrités et des vedettes en tout genre. Parmi elles, le jeune amoureux de la mode italienne raconte qu'il en connaît un en particulier. Il s'agit de Gianni Versace. Pendant tout ce temps, de leur côté, les enquêteurs, eux, sont arrivés sur place. Ils ont déjà affaire aux assauts de la presse. Tous les correspondants des plus grands journaux et magazines du pays sont déjà là. Le Post, USA Today, le New York Times et le Los Angeles Times, tous attendent les premiers mots des policiers et du compagnon du couturier. Le décès de Versace vient d'être confirmé de la part de l'hôpital. Et je ne vous parle pas des caméras de télévision qui occupent déjà le trottoir. En moins de 2 heures, des centaines de policiers sont venus boucler le quartier, boucler Ocean Drive, boucler South Beach, puis Miami tout entière. Devant la porte et dans la maison du créateur, c'est l'effervescence. On prend le témoignage de la passante, du compagnon, de l'ami qui a poursuivi le tueur. Déjà, des pistes se dégagent, dont celle d'un tueur en série que les renseignements ont localisé dans la capitale de Floride depuis presque 2 mois. Son nom, Andrew Cunanan.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Gianni Versace et celle de son meurtrier, Andrew Cunanan. Alors que l'homme phare de la mode mondiale vient d'être assassiné sur les marches de son perron, son tueur, lui, au lieu de se sauver le plus loin possible, décide de se terrer dans un appartement miteux sur une péniche à Miami Beach. Les moyens déployés dans tout Miami et dans tout l'état de Floride sont à la hauteur de l'événement. En effet, si au balbutiement de l'enquête, rien ne permet d'indiquer que Cunanan est le meurtrier, des traces ADN ainsi que la découverte du modèle de voiture utilisé vont permettre de remonter jusqu'à lui. Car le jeune homme de 27 ans n'en est pas à son coup d'essai. Andrew Cunanan figure avant le meurtre de Versace sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Rien que ça. Il est considéré comme un tueur en série, ayant déjà commis plusieurs meurtres. Mais comment un tel profil, certes désorienté et uniquement focalisé par la concrétisation de ses idéaux, est-il capable de passer à l'acte? Comment expliquer une telle violence? Le parcours meurtrier du jeune homme commence quelques mois plus tôt. Nous sommes alors en avril 1997. Andrew est en couple depuis 2 ans avec un homme plus âgé que lui d'une quarantaine d'années. Drogué, vendant son corps aux plus offrants, le jeune homme ne supporte pas de ne pas être au centre de l'attention. Certes, il est couvert de cadeaux par cette conquête, mais son ami, un beau jour, en a marre et décide brutalement de partir à Minneapolis. Cette rupture inopinée, cet abandon même, provoque chez notre jeune psychopathe en herbe une véritable bombe morale. Ne supportant pas d'être délaissé, malheureux comme les pierres, il tombe encore plus profondément dans la drogue, l'alcool et la prostitution. Il décide lui aussi, le 27 avril, de prendre un aller simple en direction du Minneapolis. Non pas sans avoir dans la tête un objectif bien défini. Lorsqu'il atterrit dans la principale ville du Minnesota, Il est subjugué par cet état du nord des États-Unis et sa nature sauvage. La ville en elle-même forme avec sa capitale, Saint-Paul, une agglomération des plus importantes. Sur les bords du Mississippi, l'air est frais, pur, vrai. Andrew souhaite se remettre de sa rupture avec son ex plus âgé et qu'il a lâchement abandonné. Pour ce faire, il compte rendre visite à une de ses anciennes conquêtes, qu'il a présentée à des amis comme étant l'amour de sa vie. De son côté, cet homme ne semble pas être réellement concerné par Cunanan, mais il va accepter de l'héberger quelques jours. La suite des événements, on la connaît mal. Ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de ce week-end avec le Floridien, l'ex-conquête ne se présente pas au travail. Ni le lundi, ni le mardi. Et voilà bien entendu que ses collègues s'inquiètent de cette absence impromptue. D'autant qu'elle n'est pas accompagnée d'un appel pour signaler une maladie, un deuil ou une quelconque autre situation d'urgence. C'est donc tout naturellement que quelques-uns de ses plus proches collaborateurs se rendent chez lui le mardi soir avec des bières et de quoi grignoter. Alors, grand étonnement, la porte n'est pas verrouillée. Et de l'appartement se dégage une odeur à leur donner des haut-le-cœurs. Ils poussent la porte et appellent timidement leur ami. Pour seule réponse, ils entendent le bruissement des mouches dans le salon. Et puis soudain, c'est l'horreur. Enroulé dans un tapis, celui de la chambre de leur ami, ils trouvent un corps inerte. Ils ne touchent rien, prennent leurs jambes à leur cou et appellent les forces de l'ordre du Minnesota. Surprise générale lorsqu'il déroule le cercueil de laine. Ce n'est pas le propriétaire des lieux qui est à l'intérieur. L'homme est grisonnant, plus vieux, ne semble pas originaire du coin. Vous le tenez ? Ben, bingo ! Il s'agit bien de l'ex plus âgé de Cunanan qu'il a abandonné quelques mois plus tôt. Andrew, lui, s'est volatilisé avec celui qu'il a hébergé durant ce week-end. Derrière lui, il sème tout de même un premier petit caillou. Les enquêteurs retrouvent son sac à dos, sur lequel figure en lettres capitales son nom, Andrew Cunanan. Mais alors, où sont passés les deux hommes ? Sont-ils complices de cet assassinat ? Ont-ils été victimes d'une attaque ? Les questions sont encore nombreuses. Les réponses, elles, du moins en partie, apparaîtront la semaine suivante. En effet, alors que les enquêteurs peinent à retrouver le duo en cavale, un corps est repêché le samedi suivant au bord d'un lac qui se trouve à environ une heure au nord de l'agglomération de Minneapolis. La victime est bel et bien le propriétaire du loft et ex-petit ami de Cunanan. Rapidement, les enquêteurs décident de faire des tests balistiques, étant donné que l'homme est mort d'une balle dans la tête. Bingo. La balle correspond au calibre de l'arme appartenant à l'homme retrouvé tué dans le tapis. Et donc, la conclusion s'impose. Andrew lui a volé son arme, puis l'a tué, avant de prendre en otage l'homme qu'ils viennent de retrouver. Alors qu'il a déjà deux victimes à son actif, il est toujours introuvable. Le jeune homme, de son côté, est dans un état de paranoïa totale. Pas méticuleux du tout, il agit totalement à l'instinct. Fuir. Fuir, c'est la seule issue possible. Le 2 mai 1997, il tue un homme de 72 ans. Troisième victime. On ignore toujours s'ils entretenaient un lien. On le retrouve ligoté dans son garage, poignardé à mort. Les enquêteurs établissent clairement qu'il a été torturé. En plus de ces macabres découvertes, on se rend compte que l'agresseur a pris tout son temps après son crime. Il s'est même fait à manger et a pris une douche avant de repartir tranquillement à bord de la Lexus du propriétaire de la maison. Andrew est particulièrement instable. Mais il a quand même conscience que la voiture de la victime va être vite recherchée et qu'il ne peut pas la garder plus de quelques jours où le risque de se faire prendre sera trop grand. La cavale, elle, se poursuit. « Cunanan mange dans sa voiture, dort dedans et tente de n'éveiller aucun soupçon. Il se sait recherché et il adore ça. Une fois le mécanisme enclenché, impossible pour ce type de psychopathe de reprendre une vie normale. Il faut tuer encore et toujours. Andrew traverse les villes, les districts, les États et finit par arriver dans le sud du New Jersey. Il traverse une bourgade et la sillonne quand, longeant le cimetière de la ville, il tombe sur un pick-up rouge. Un Chevrolet, avec à son bord un homme qui mange un sandwich certainement préparé avec amour par sa femme. Ce gars n'est autre que le gardien du cimetière depuis des dizaines d'années. Il a 45 ans seulement, mais toute sa famille prévoit de quitter bientôt ce trou à rats pour s'installer près de Chicago. On ne manque pas de cimetière dans l'Illinois, pense-t-il, en mâchant sa collation et en fixant machinalement l'homme qui marche sur le trottoir, le nez enfoncé dans une casquette trop grande pour lui. Drôle d'allure, ce type, pense le gardien du cimetière. Il n'a pas le temps de réagir qu'il est déjà extrait de la voiture par le jeune homme qui commence à l'étrangler. Le sandwich encore dans sa gorge, le poids des années jouant contre lui, il n'a aucune chance. Bye bye, Chicago. À la découverte du corps, les enquêteurs remontent une nouvelle fois vite la piste de Cunanan. En effet, le corps du gardien de cimetière a été placé dans le coffre de la Lexus volée quelques jours plus tôt. En échange, c'est le rutilant pick-up rouge de la victime qui sillonne maintenant les routes. Le jeune tueur en série semble toujours avoir une longueur d'avance et le FBI commence tout doucement à perdre patience. Où va-t-il aller maintenant, alors que sa folie meurtrière, elle, monte constamment en puissance? Andrew Cunanan a identifié sa prochaine cible. Il lui faut viser un gros poisson. Alors qu'il quitte l'État du New Jersey, il pense déjà à Gianni Versace. Le créateur, lui, est à Milan et planche sur sa nouvelle collection, qui sera aussi sa dernière. La question qui demeure dans cette cavale sanguinaire, c'est celle du lien entre le jeune criminel et le richissime créateur. Ils viennent de deux univers différents, n'ont aucun moyen de se côtoyer en temps normal. Se connaissent-ils? Et si oui, comment? Cunanan avait-il des raisons d'en vouloir à la star de la mode? Là encore, la réponse est floue. En réalité, on ignore totalement les motivations du meurtrier au sujet de Gianni Versace. Les jours suivants, le meurtre qui nous intéresse aujourd'hui, l'identification du 4x4 et l'analyse ADN parlent. Andrew est bien le meurtrier du créateur. Il n'y a plus aucun doute. Le chef du cabinet d'expertise des fugitifs du FBI s'exclame à la découverte des résultats. C'est lui? Non, mais c'est bien lui, c'est Cunanan. Il n'y a plus de doute. Pourtant, cette découverte n'entraîne pas immédiatement un coup d'accélérateur décisif. Le mandat d'arrêt tarde à être demandé, surtout à cause d'une affaire qui fait toujours jurisprudence 3 ans après les faits, celle d'O.J. Simpson. Accusé d'un double meurtre, dont celui de son ex-femme et mère de ses enfants, la star de télé et ancienne gloire du foot américain avait réuni une dream team d'avocats autour de lui, lui permettant de s'en tirer avec un acquittement. La gestion policière du dossier avait alors posé question. Certains membres du LAPD, Los Angeles Police Department, ayant été mis en cause. Incités à comparaître, l'institution avait dû se justifier. Hors de question de revivre ça dans le cas présent. Le meurtrier est sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du pays. La révélation de son identité va certainement provoquer un raz-de-marée médiatique. Mais les investigations avancent. Impossible de l'éviter. Le FBI doit mettre un coup de collier. Une fois au courant, la presse s'en donne un cœur joie. Sur les plateaux de télévision, on n'entend plus que les noms du meurtrier et de sa victime. Planqué dans sa péniche, Cunanan est aux anges. Il est devenu une star. Les rumeurs émanant des journalistes et des reporters, elles, se propagent comme une traînée de poudre et bientôt, il déchante. Même s'il était à la recherche de la starification, la situation devient pesante. La plupart des portraits qu'on dresse de lui sont faux. Parfois on le dit marié ou divorcé, père d'un enfant. D'autres fois encore, Il est un tueur depuis sa plus tendre enfance. La rumeur la plus tenace est celle d'une rencontre entre les deux hommes en 1990 de manière brève et fugace à San Diego. Ils seraient allés voir un opéra ensemble, un spectacle dont Versace aurait signé les costumes. La famille niera toujours cette hypothèse journalistique, affirmant qu'à aucun moment, les deux hommes n'ont pu se côtoyer, ne serait-ce que le temps d'une soirée. Mais telle est la machine médiatique, implacable et parfois délirante. Tout comme sa cavale, qui finalement n'en est pas une car il est complètement cerné, son image lui échappe. Andrew Cunanan ne va pas tarder à perdre complètement les pédales et les enquêteurs, eux, ne lui ont toujours pas mis la main dessus, alors même qu'il est juste sous leur nez.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de l'assassinat du créateur de mode qui habillait les stars et avait mis Hollywood à ses pieds, Gianni Versace. Abattu de 2 balles sur les marches en marbre de son perron, celui qui est le meilleur ami d'Elton John est la victime d'un tueur en série, du nom d'Andrew Cunanan. Attendant son heure, planqué dans une péniche sur les quais de Miami Beach, à seulement quelques pâtés de maison de la scène de crime, il reste scotché devant les chaînes info. Lui qui cherche à devenir une star, le voilà servi. Nous sommes le 23 juillet 1997. Il est 15h52. Fernando Carrera est gardien de plusieurs péniches résidentielles sur les quais de Miami. Le vieil homme de 71 ans, depuis 20 ans aux États-Unis, après une vie rondement menée au Portugal, a pris ce petit boulot pour arrondir ses fins de mois. Sa femme et lui sont en ronde ce jour-là. Et comme à son habitude, il vérifie de manière méticuleuse que tout va bien au sein des habitations qui lui sont confiées. Son pays natal lui manque, mais 2 de ses enfants sont venus chercher une vie meilleure aux États-Unis. Et le pari est réussi pour sa première fille, vendeuse dans une boutique de luxe d'Ocean Drive. Mais son fils, lui, est tombé dans la drogue et traîne avec des bandits malfamés du sud de la ville. Oh, bien entendu, il est inquiet de cette situation. Mais la force qui l'anime à cet âge n'est déjà plus la même qu'il y a 20 ans. Le soleil du jour est particulièrement brûlant et sa casquette à l'effigie du Heat de l'équipe NBA de la capitale de Floride ne le protège guère de la chaleur. Il transpire à grosses gouttes dans son Marcel blanc délavé après des années de bons et loyaux services. Ses bras fins comme des aiguilles s'agitent en ouvrant et en refermant les cadenas. Les bateaux qui circulent dans la baie sont nombreux et ceux qu'il connaît l'interpellent d'un coup de corne de brume. Une journée des plus banales en somme, si ce n'est que sa femme est avec lui, et surtout qu'il a eu droit à des nachos en guise de petit déjeuner. Le repas des princes, surtout quand ils sont préparés par Joe, non loin d'Ocean Drive. Depuis une semaine, tout le périmètre est bouclé, et on voit plus de flics que de mouettes sur les berges. Le meurtre de ce Versace et la cavale de ce jeune-là, c'est Andrew Cunanan, le reprend sa femme, c'est absolument délirant. Saluant pour la 5e fois un officier en patrouille qui passe à côté de lui, le vieil homme s'approche d'un pas distrait et léger de la péniche qui fait la jonction entre les quais et les beaux quartiers. Disposant d'un étage de couleur blanche et bleue, cette dernière est un petit peu moins belle que les autres, mais plus fonctionnelle. Plus de chambres aussi, donc plus de dollars qui tombent pour son propriétaire. En arrivant devant le portail protégé par un cadenas rouillé, il remarque 2 des barreaux d'accès ont été écartés, ce qui, note-t-il, est tout à fait inhabituel. Des gamins sont venus fumer des pétards là-haut, pense-t-il. Et rajustant sa casquette comme si elle était la garante de son autorité, il se précipite dans les escaliers qui mènent à l'étage. Dans une première chambre, il trouve des traces fraîches de passage, des boîtes de conserve, un sac à dos. Il n'a pas le temps de terminer son inspection qu'un coup de feu transperce le calme de l'après-midi. Conscient d'avoir senti le souffle passer tout près de lui, le vieux gardien saisit sa femme par le bras, se précipite dans les escaliers, ne prend pas la peine de refermer le portail derrière lui et se rue vers le premier policier qu'il voit. Finalement, heureusement qu'on n'en trouve plus que les mouettes depuis quelques jours, pense-t-il. Et non, Non, le gardien et sa femme n'ont pas été attaqués cet après-midi-là au cœur de Miami Beach, non. Andrew Cunanan, entendant le bruit et anticipant l'arrivée du FBI, s'est suicidé. Les enquêteurs le retrouvent allongé sur le dos et sur le lit de sa chambre, squatté, une balle dans la tête. Il est presque nu, simplement vêtu d'un caleçon blanc. La chambre est le témoin d'une semaine de planque dans l'obscurité et l'angoisse. La télé est allumée sur une chaîne d'infos en continu où son visage ne cesse d'apparaître. Des boîtes de conserve en tout genre jonchent le sol et du robinet de la cuisine perle un goutte à goutte insupportable. Autour du corps, des magazines de mode datés de plusieurs mois, dont l'un affiche fièrement un Versace au top de sa forme en couverture. À côté du visage inerte du jeune homme, son pistolet de calibre 40 avec lequel il a tué Gianni et tous les autres. Le corps, enfin, présente un trou béant dans le visage, un tir certainement effectué dans la bouche. Fin de l'histoire. Fin de la cavale. Fin des espoirs de réponse aussi. Personne n'en aura jamais. Le jeune homme emporte dans la tombe ses secrets et ceux de ses 5 victimes, dont Gianni Versace. Jouant encore une fois la carte de la prudence, l'assaut n'a été donné qu'après 20 heures, de peur que l'homme armé ne fasse feu sur les forces de l'ordre. Il a finalement choisi une autre voie. Le FBI, lui, n'est pas mécontent de la fin de cette chasse à l'homme, qui a demandé beaucoup d'énergie et de moyens, tant humains que financiers. Les répercussions de cette affaire qui concerne le meurtre de Versace, mais aussi celui de 4 autres innocents, sont immenses, médiatiquement surtout, comme nous l'avons déjà vu ensemble. Mais le suicide de l'auteur des meurtres apporte plus de questions que de réponses. Bien que la famille du créateur réfute l'hypothèse d'un lien entre les deux hommes, certains journalistes ont enquêté en ce sens et sont persuadés de pouvoir prouver l'inverse. Une journaliste de Vanity Fair rapporte quelque temps après la fin de l'affaire que Cunanan et Versace avaient été aperçus dans les coulisses de l'Opéra de San Francisco et que le créateur avait dit au jeune homme qu'il le reconnaissait. Rien ne prouve qu'ils aient un jour été amants, mais certaines théories persistent sur leur lien présumé. Pour la firme Versace, le meurtre de son fondateur est bien entendu une catastrophe. Mais pour autant, la sœur de Gianni, Donatella, va prendre naturellement le relais alors qu'elle l'épaule déjà depuis plusieurs années. Elle devient, quelques semaines après le décès de son frère, vice-présidente du groupe et responsable de toutes les lignes de création Versace. Elle hérite de 20% des parts, son frère Sandro de 30%. Le reste va à la fille de Donatella, qui n'a que 11 ans au moment du meurtre. Elle est aujourd'hui l'héritière de l'Empire Versace. La firme fondée en 1978 continue aujourd'hui d'inonder le monde de la mode de création en tout genre, en évoluant mais tout en gardant aussi les influences insufflées par Gianni de son vivant. Avec Lady Gaga comme égérie, elle est vendue en 2018 à un groupe américain pour un peu moins de 2 milliards d'euros. Une fortune considérable. L'assassinat de Versace, s'il a été un véritable tremblement de terre pour le monde de la mode et de la création artistique en général, propulse la marque au cœur d'une aura presque mystique, entretenue par la mort tragique de son créateur. Cet esprit libre, rebelle, à l'écart des normes et des standards sociétaux, ne cessa de son vivant de bousculer l'ordre établi. Je vous propose de nous quitter aujourd'hui sur l'une de ses citations restées les plus célèbres. En réponse à un journaliste qui lui demandait quels conseils il pourrait donner aux gens dans leur rapport quotidien à la mode, Gianni Versace répondit « Ne soyez pas dans les tendances. Ne laissez pas la mode s'emparer de vous, mais décidez de ce que vous êtes, de ce que vous voulez exprimer par ce que vous portez et la façon dont vous vivez. » 25 ans après sa mort, ces mots continuent de résonner en bien des cœurs. Voilà pour ce récit que j'ai eu l'honneur de vous partager aujourd'hui avec la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.